La fête projetée se passa à merveille. Les amis de Foster, jeunes et vieux, étaient tous présents. Parmi les jeunes se trouvaient Flossie et Grace Pistache et leur frère Adelbert, qui était un jeune ferblantier plein d'avenir. Il y avait aussi Osanna Dilkis, jeune, un plâtrier ayant à peine fini son apprentissage. Et depuis bien des mois, Aldebert et Rosanna s'étaient montrés très assidus auprès de Gwendolen et de Clytemnestra Foster, et les parents des deux jeunes filles en avaient témoigné leur entière satisfaction. Mais ils se rendirent compte alors que ce sentiment n'existait plus. Ils sentaient qu'une nouvelle condition financière avait élevé une barrière sociale entre leur fille et ses jeunes ouvriers. Leur fille pouvait désormais regarder plus haut, c'était même leur devoir. Elle ne devait pas viser à épouser moins qu'un homme d'affaires ou un avocat. Mais papa et maman s'en chargeraient, il n'y aurait pas de mésalliance. Néanmoins, ses projets et ses pensées demeuraient cachés et ne firent pas ombrage aux réjouissances de la fête. Tout ce que les invités purent lire sur la physionomie de leurs hôtes, ce fut un contentement calme et hautain. Leur maintien grave et digne força l'admiration et l'étonnement de tous les assistants. Tous s'en aperçurent, tous en parlèrent, mais personne n'en devina le secret. C'était un profond mystère. Trois personnes différentes firent sans malice la même remarque sur cette apparente prospérité. On dirait qu'ils ont fait un héritage. Et c'était bien vrai. La plupart des mères auraient pris en main la question matrimoniale à l'ancienne façon. Elles auraient fait un long discours solennel et sans tact, un discours fait pour manquer son but, en causant les larmes et des révoltes secrètes. Et les mêmes mères auraient gardé davantage leur jeu en défendant aux jeunes ouvriers de continuer leur assiduité auprès de leurs filles. Mais la mère des petites Foster était d'une nature différente, elle était pratique. Elle ne parla pas de la chose ni aux jeunes gens ni à personne, sauf à Sally. Il écouta et comprit. Il comprit et il admira. Il dit « Ah oui, je saisis ton idée. Au lieu de mépriser les échantillons offerts et de gratter le marché en blessant des sentiments légitimes, tu cherches simplement d'autres échantillons pour le même prix et tu laisseras faire le reste à la nature. Oui, c'est la sagesse, Alec. La sagesse solide comme un roc. Et où est ton élu? As-tu déjà jeté la meçon ?» Elle n'avait encore rien fait. Il fallait qu'ils examinent ensemble l'état de ce que Sally appelait le marché. Pour commencer, ils discutèrent le jeune Broadleach, avocat de talent, et Fullon, un jeune dentiste. Il aurait fallu que Sally les invitât à déjeuner. « Mais pas tout de suite, rien ne presse, » dit Alec. « Il faut les surveiller et attendre. Une grande lenteur ne nuirait jamais dans une affaire si importante. » Il arriva que cette façon de voir fut sage aussi, car avant 3 semaines, Alec fit une affaire qui porta ses imaginaires 100 000 à 400 000 de la même espèce. Pour la première fois, les Foster eurent du champagne à dîner. Pas du vrai, mais une qualité assez ressemblante pour contenter leur imagination montée. Ce fut Sally qui le proposa et Alec consentit par faiblesse. Au fond, ils étaient tous les deux troublés et honteux, car M. Foster faisait partie de la société de tempérance, et aux enterrements, il en portait les insignes, un large baudrier qui faisait peur aux chiens. Sa femme appartenait à la ligue des WCTV et adhérait à tout ce que cette ligue implique de vertu sans tache et de rigide sainteté. Mais voilà, la vanité des richesses commençait à se loger dans leur cœur et à y faire son travail accoutumé. Ils agissaient pour prouver une fois de plus la triste vérité démontrée déjà bien des fois dans le monde, savoir que la pauvreté surpasse tous les bons principes pour défendre l'homme contre les vices et la dégradation. Il valait désormais plus de 400 000 $. Ils reprirent la question matrimoniale. Il ne fut question ni du dentiste ni de l'avocat. Il n'y avait plus lieu, ils étaient forcément disqualifiés. Alors ils causèrent du fils du banquier et du fils du docteur. Mais comme dans le cas précédent, ils décidèrent d'attendre et de réfléchir, d'aller lentement et sûrement. La chance vient de nouveau de leur côté. Adek, toujours en éveil, vit une occasion très risquée à la vérité, mais elle eut l'audace de faire le pas. Un temps de doute, de frisson, de terrible malaise survint, car l'insuccès aurait équivalu à la ruine complète. Puis vint le résultat, et Alec, à demi-morte de joie, pouvait à peine maîtriser sa voix lorsqu'elle dit à Sally : « L'incertitude est passée, Sally, et nous valons 1 000 000 $ !» Sally pleura de reconnaissance et dit : « Oh, Electra, joyeux entre toutes les femmes, chérie de mon cœur, mais nous sommes enfin libres, nous nageons dans la richesse, nous n'aurons plus besoin de compter. Ce serait le cas ou jamais d'acheter une bouteille de vrai veuve Cliquot. » Il sortit de l'armoire une bouteille de bière brune qu'il offrit à sacrifice en disant « Au diable la dépense !» Elle le réprimanda doucement, les yeux tout humides de joie. Ils reléguèrent le fils du banquier et le fils du docteur et s'assirent pour considérer les titres du fils du gouverneur et du fils d'un sénateur. Il serait oiseux de rapporter par le menu toutes les bonnes affaires fictives qui enrichirent si rapidement les Foster. Leur progrès fut rapide, foudroyant, merveilleux. N'importe quelle combinaison trouvée par Alec devenait une mine d'or. Les millions s'entassèrent sur les millions, et le pactole au flot merveilleux qui les submergeait augmentait sans cesse de volume en roulant à plein bord. Les Foster eurent successivement 5 millions, 10 millions, puis 20, 30 millions. Mais où devait donc s'arrêter leur fortune? 2 années passèrent pour eux dans ce délire. C'est à peine si dans leur rêve ils sentaient le temps passer. Ils possédaient alors 300 000 000 $. Ils faisaient partie de toutes les grandes banques de l'État. Et bien qu'ils n'en eussent aucun souci, ils augmentaient sans cesse leurs capitaux. C'était une fois 5 000 000, une autre fois 10, qui venaient tomber dans leur caisse par la force des choses. Les combinaisons, les coups de bourse leur étaient toujours favorables, profitables. Leurs 300 000 000 se trouvèrent doublés, puis une seconde fois. Puis une troisième, ils eurent plus de 2 milliards. Toutes ces affaires n'en étaient pas sans une certaine quantité d'écriture. À ce moment-là, la comptabilité parut s'embrouiller. Les Foster virent et comprirent qu'il serait désastreux de laisser cet état s'aggraver davantage. Ils savaient bien qu'une chose bien commencée doit être continuée avec soin dans toutes ses parties. Mais pour bien tenir leurs comptes en règle, c'était une affaire de plusieurs heures de travail par jour. Et où trouver ces heures-là? Sally vendait des pingles et du sucre tout le long du jour, et pendant ce temps, Alec faisait la cuisine, lavait la vaisselle, faisait les lits, et cela chaque jour de l'année. Bien plus, il ne réclamait pas l'aide de ses filles, car ses filles avaient à garder des mains blanches pour jouer leur rôle futur dans la haute société. Les Foster savaient, chacun d'eux savait bien, qu'il n'y avait qu'une façon de trouver les 12 ou 15 heures par semaine qu'il fallait employer au compte. Mais tous deux avaient honte d'y penser, et tous deux attendaient que l'autre en parlât le premier. Enfin, Sally dit, faudra y arriver. C'en est trop pour moi. Elle avait fait comme si j'avais dit la chose, n'importe si j'ai prononcé le mot ou non. Alec rougit, mais fut reconnaissante. Sans plus discourir, ils tombèrent dans le péché. Ils violèrent le jour du repos. Ils l'employèrent à leurs calculs. Il n'y avait que ce moyen pour ne pas se perdre dans leur registre. Et ce premier péché en appela d'autres. Il n'y a que le premier pas qui coûte. De grandes richesses constituent des tentations terribles, et elles mènent fréquemment à la perdition des gens qui n'y sont pas habitués. Donc les Foster se plongèrent dans le péché et profanèrent le saint jour. Ils se mirent au travail avec acharnement et compulsèrent leur portefeuille. Quelle magnifique liste de valeurs! Les chemins de fer, les transatlantiques, les pétroles, les câbles interocéaniens, les De Beers, les cuivres, l'acier. 2 milliards! Et tout excellemment placé en des affaires sûres, en des entreprises connues, prospères, donnant de gros intérêts et des dividendes superbes. Le revenu était de 120 millions par an. Alec, à ce résultat, poussa un long soupir de joie et dit: Est-ce assez? Oh oui, Alec! Alors que faut-il faire maintenant? Oh, tout arrêter! Se retirer des affaires? Eh, cela, c'est cela. Moi, je suis de cet avis. Le gros travail est achevé. Il nous faut prendre un long repos et jouir de notre argent. Parfait. Dit Alec. Quoi donc, chérie? Combien pouvons-nous dépenser de notre revenu? Tout. À ce mot, son mari se sentit débarrassé d'un énorme fardeau. Il ne répondit pas un mot, il était trop heureux pour le manifester en paroles. Dès lors, ils continuèrent à violer le jour de repos chaque semaine. Ce n'est que le premier pas qui coûte, hélas, répétons-le. Chaque dimanche, ils passaient la journée tout entière à élaborer les plans des différentes choses qu'ils feraient pour dépenser leurs revenus. Et ils ne s'arrêtaient dans ces délicieuses occupations que fort avant dans la nuit. À chaque séance, Alec mettait des millions à la disposition des grandes œuvres philanthropiques et religieuses, et Sally employait autant de millions à des affaires auxquelles il donna des noms dans le commencement, mais dans le commencement seulement, car par la suite il les rangea toutes sous la catégorie commode et complète de dépenses diverses. Ces occupations furent la cause de sérieuses dépenses en pétrole. Pendant quelque temps, Alec en fut un peu ennuyée. Puis, après quelques semaines, elle cessa d'en prendre souci, car elle n'en eut plus le prétexte. Elle fut seulement peinée, affligée, honteuse, mais elle ne dit rien. C'était si peu de choses. En réalité, Sally prenait ce pétrole au magasin. Il se faisait voleur. Oh, il en est toujours ainsi. De grandes richesses aux personnes qui ont été pauvres sont de terribles tentations. Avant que les Foster ne devinssent riches, on pouvait leur confier 1 litre de pétrole. Mais maintenant, jetons un voile sur ces petites faiblesses de leur conscience. Du reste, du pétrole aux pommes, il n'y a pas loin. Sally rapporta quelques pommes, puis un morceau de savon, puis 1 livre de sucre. Oh, comme il est facile d'aller du mal au pire, lorsqu'une fois on est parti du mauvais pied. Entre-temps, d'autres événements avaient marqué le chemin où les Foster couraient avec leur fortune. Leur irréelle maison de briques avait fait place à un magnifique château de pierre de taille, couvert d'ardoises. Peu après, ce château lui-même devint trop petit. D'autres demeures s'élevèrent, royales et étonnantes, toujours plus hautes, plus grandes, plus belles, et chacune à son tour fut abandonnée pour un palais plus vaste encore et d'une architecture plus merveilleuse. En ces derniers jours, nos rêveurs venaient de faire construire le château idéal. Il s'élevait dans une région lointaine, sur une colline boisée au-dessus d'une vallée sinueuse où une rivière déroulait ses méandres gracieux. Tout le pays lui servait de parc. C'était bien le palais des amants du rêve. Toujours animé par de nombreux hôtes de distinction, cette splendide demeure se trouvait à l'Orient, vers Newport Rhode Island, en pleine terre sainte de l'aristocratie américaine. D'habitude, ils passaient une grande partie de leur dimanche dans cette magnifique demeure seigneuriale, et le reste du temps, ils allaient en Europe ou faisaient quelques délicieuses croisières dans leur yacht étincelant. 6 jours de vie basse et matérielle, étroite et mesquine, et le 7e jour, tout entier, passé en pleine cité des songes. Ainsi s'était ordonnée leur existence. Et dans leur vie de la semaine, durant les 6 jours de travail vulgaire, ils demeurèrent diligents, soigneux, pratiques, économes. Ils continuèrent à faire partie de leur petite église presbytérienne et à travailler pour elle et pour le succès des dogmes austères qu'elle enseignait. Mais dans leur vie de rêve, ils n'obéissaient plus qu'à leur fantaisie, quelles qu'elles fussent, et même si elles étaient changeantes. Dans cette question d'église, les fantaisies d'Alec ne furent pas très désordonnées ni bien fréquentes. Mais celles de Sally firent compensation. Alec, dans son existence imaginaire, s'était rallié tout de suite à l'église épiscopale dont les attaches officielles l'attiraient. Mais peu après, elle entra dans la haute église à cause du grand luxe de cérémonie et enfin, elle se vit catholique pour la même raison. Les libéralités des Foster commencèrent dès le début de leur prospérité, mais à mesure que croissait leur fortune, elles devinrent extraordinaires, énormes. Alec bâtissait une ou deux universités par dimanche, un hôpital ou deux aussi, quelques églises, très souvent même une cathédrale. Une fois, Sally s'écria gaiement, mais sans avoir bien réfléchi: Il faut qu'il fasse froid pour qu'un jour se passe sans que ma femme n'envoie un bateau chargé de missionnaires pour décider ces excellents Chinois à troquer leur confucianisme contre le christianisme. Cette phrase, peu courtoise et ironique, blessa les sentiments profonds d'Alec, et elle se retira en pleurant. Oh, cela le fit rentrer en lui-même et lui alla au cœur. Dans sa triste honte, il aurait donné des mondes pour que cette malencontreuse phrase ne lui fût pas venue à la bouche. Elle n'avait formulé aucun blâme, et cela le mettait encore plus mal à l'aise. Une de telles situations pousse fatalement au retour sur soi-même. Ne l'avait-il pas attristé déjà d'autres fois? Ce silence généreux qu'elle lui avait seul opposé l'angoissa plus que tout. Et reportant ses pensées sur lui-même, il revit défiler devant lui, en procession lamentable, les tableaux de sa vie depuis l'origine de leur fortune. Et comme les souvenirs revenaient en foule, il sentit que ses joues s'empourpraient de honte et qu'il n'était plus avili qu'il l'aurait cru. L'existence de sa femme, qu'elle était belle, toute semée de généreuses actions, toute tendue vers les choses idéales. Et la sienne, qu'elle était frivole, égoïste, vide, ignoble, et tout orientée vers les plus bas et vils soucis. Jamais il n'avait fait un pas vers le mieux, mais quelle descente vertigineuse vers le pire! Il compara ses propres actes avec ceux de sa femme, et il s'indigna de s'être moqué d'elle, lui. Ah, c'était bien à lui de reprocher quelque chose à sa généreuse Alec. Que pouvait-il dire? Qu'avait-il fait jusqu'à présent? Voici, lorsqu'elle bâtissait sa première église, lui, il fondait avec d'autres multimillionnaires blasés un poker club où il perdait des centaines de mille dollars. Et il était fier de la célébrité que cela lui amenait. Lorsqu'elle bâtissait sa première université, que faisait-il? Il menait une vie de dissipation et de plaisir secret dont le scandale avait été grand. Lorsqu'elle fondait un asile pour les infirmes, que faisait-il? Hélas, lorsqu'elle établissait les statuts de cette noble société pour la purification des sexes, que faisait-il? Oui, vraiment, que faisait-il? Et lorsqu'elle se fit accompagner de toutes les WCTU pour briser les flacons de la pernicieuse liqueur, lui, que faisait-il? Ivre trois fois par jour. Enfin, au moment où cette femme allait au grand cœur, qui avait bâti plus de 100 cathédrales et était reçue avec grand honneur par le pape et recevait la rose d'or qu'elle avait si bien gardée et gagnée, lui, où était-il? Il faisait sauter la banque à Monte-Carlo. Il s'arrêta. Il n'eut pas la force d'aller plus loin. Il ne pouvait pas supporter tous ces affreux souvenirs. Il se leva soudain. Une grave résolution s'affirmait en lui. Tous ses secrets devaient être révélés, toutes ses fautes devaient être confessées. Il ne mènerait plus une vie à part. Et il allait d'abord droit à elle pour lui dire tout. C'est ce qu'il fit. Il lui raconta tout. Il pleura sur son sein, il sanglota, gémit et implora son pardon. Ce fut pour elle une bien dure minute, et le choc qu'elle éprouva fut d'une violence inouïe. Elle blêmit et chancela, mais elle se reprit. Après tout, n'était-il son mari, son bien, son tout, le cœur de son cœur, l'amour de ses yeux, le sien à elle, depuis toujours et en toutes choses? Elle lui pardonna. Elle sentit cependant qu'il ne serait plus jamais pour elle tout ce qu'il avait été jusqu'alors. Elle savait qu'il pouvait se repentir, mais non se réformer. Mais encore, tout avili et déchu qu'il fût, n'était-il pas son tout, son unique, son idole, son amour? Elle lui dit qu'elle n'était que son esclave et lui ouvrit tout grand ses bras. Quelque temps après ces événements, les époux Foster étaient mollement étendus sur des fauteuils à l'avant de leur yacht de rêve qui croisait dans les mers du Sud. Ils gardaient le silence, chacun d'eux ayant fort à faire avec ses propres pensées. Ces longs silences étaient devenus de plus en plus fréquents entre eux, et leur vieille et familière camaraderie qui leur faisait se partager toutes leurs idées s'était insensiblement évanouie. Les terribles révélations de Sally avaient fait leur œuvre. Alec avait fait de terribles efforts pour en chasser le souvenir, mais elle n'avait pas réussi à s'en débarrasser, et la honte et l'amertume qu'elle avait ressentie à ses tristes aveux demeurait dans son âme, empoisonnant peu à peu sa noble vie de rêve. Elle s'apercevait maintenant, le dimanche, que son mari devenait un être arrogant et fourbe. Elle ne voulait pas le voir, et aussi tâchait-elle de ne pas lever les yeux sur lui le dimanche. Mais elle-même ne méritait-elle aucun blâme? Hélas, elle savait bien ce qui en était. Elle avait un secret pour son mari. Elle n'agissait pas loyalement envers lui, et cela lui causait une grande angoisse. Elle n'avait pas osé lui en parler. Elle avait été tentée par une occasion exceptionnelle qui se présentait de mettre la main sur l'ensemble des chemins de fer et des mines de tout le pays. Et elle s'était remise à la spéculation, et elle avait risqué leur fortune entière. Maintenant, elle tremblait tout le jour, chaque dimanche, de laisser percer son inquiétude. Elle avait trahi la confiance de son mari, et dans son misérable remords, Elle se sentait remplie de pitié pour lui. Elle le voyait là, devant elle, tout heureux, satisfait, confiant en elle. Jamais il n'avait eu le moindre soupçon. Et elle se désespérait en elle-même à penser qu'une calamité formidable où sombrerait toute leur fortune ne donnait maintenant qu'à un fil. « Dis donc, Alec !» Cette interruption soudaine de son rêve, causée par l'appel de son mari, lui fut un soulagement. Elle lui en fut reconnaissante et quelque chose de son ancienne tendresse perça dans le ton de sa douce réponse. « Eh bien, chérie, sais-tu, Alec, je pense que nous nous sommes trompés. Enfin, c'est-à-dire que tu t'es trompé. Je parle de cette affaire de mariage. » Il s'assit, se cala bien dans un grand fauteuil et continua vivement. « Considère bien tout. Voilà plus de 5 ans que cela traîne. Tu as toujours agi de la même façon depuis le commencement. » À mesure que nous devenions plus riches, tu as élevé tes prétentions. Et toutes les fois que je m'imagine avoir bientôt à préparer les noces, tu aperçois un meilleur parti pour tes filles. Et j'ai plus qu'à rengainer mes préparatifs avec mon désappointement. Je crois que tu es trop difficile. Quelques jours, nous nous en repentirons. Bon, d'abord, nous avons écarté le dentiste et l'avocat. Cela, c'était parfait et nécessaire. Ensuite, nous avons écarté le fils du banquier, l'héritier du marchand de porc salé. C'était encore très bien. Puis nous avons écarté le fils du gouverneur et celui du sénateur. Parfait encore, je l'avoue. Ensuite, c'est le fils du vice-président et celui du ministre de la guerre que nous avons mis de côté. Bien, très bien, car les hautes positions occupées par leur père n'ont rien de stable. Alors tu es allé à l'aristocratie, et j'ai cru qu'enfin nous touchions au but. Nous allions nous allier avec l'un des représentants de ces vieilles familles, si rares et si vénérables, dont la lignée remonte à 150 ans au moins, et dont les descendants actuels sont bien purifiés de toute odeur de travail manuel. Mais je le croyais, et je m'imaginais que les mariages allaient se faire, n'est-ce pas? Mais non, car aussitôt tu as songé à 2 vrais aristocrates d'Europe, et de ce moment, adieu nos meilleurs et plus proéminents compatriotes. Donc j'ai été affreusement découragé, Alec. Et puis après cela, quelle procession! Tu as repoussé des baronnets pour des barons pour des vicomtes pour des comtes pour des marquis pour des ducs. Maintenant, Alec, il faut s'arrêter. Tu as été jusqu'au bout. Nous avons maintenant 4 ducs sous la main. Ils sont tous authentiques et de très anciennes lignées, tous perdus de dettes. Ils veulent d'énormes dotes, mais nous pouvons leur passer cela. Alors, Alec, le moment est venu. Présentons-les aux petites et qu'elles choisissent. » Alec avait souri tranquillement dès le début de ce long discours, puis une lueur de joie, de triomphe presque, avait illuminé ses yeux. Enfin, elle dit aussi calmement que possible, « Sally, que dirais-tu d'une alliance royale ?»« Oh, prodige ! Oh, pauvre homme !» Il fut si sot devant une pareille interrogation qu'il resta un moment la bouche ouverte en se passant la main sur l'oreille comme un chat. Enfin, il se reprit, se leva et vint s'asseoir au pied de sa femme. Il s'inclina devant elle avec tout le respect et l'admiration qu'il avait autrefois pour elle. « Par Saint-Georges ! » s'écria-t-il avec enthousiasme, « Alec, mais tu es une femme supérieure entre toutes. Je saurais me mesurer à toi. Oh, je ne pourrais jamais apprendre à sonder les pensées profondes. Je croyais pouvoir critiquer des façons de faire. Moi, j'aurais bien dû penser que tu savais ce que tu faisais et que tu préparais quelque chose de grandiose. Pardonne-moi, et maintenant, comme je brûle d'apprendre les détails, parle, ou je ne t'écriterai plus de ma vie. Sa femme, heureuse et flattée, approcha ses lèvres de l'oreille de Sally et chuchota le nom d'un prince régnant. Il en perdit la respiration et son visage se colora. « Ciel ! » s'écria-t-il, « mais il a une maison de jeu, une potence, un évêque, une cathédrale, tout cela à lui. Il perçoit des droits de douane, c'est le plus sélect principauté de l'Europe. Il n'y a pas beaucoup de territoire, mais ce qu'il a est suffisant. Il est souverain, c'est l'essentiel. Le territoire ne signifie rien. » Alec le considérait avec des yeux brillants. Elle se sentait profondément heureuse. Elle dit « Pense, Sally, c'est une famille qui ne s'est jamais alliée hors des maisons royales ou impériales d'Europe. Nos petits-enfants s'assieront sur des trônes. » « Mais il n'y a rien de plus certain dans le ciel ni sur la terre, Alec. Ils tiendront des sceptres aussi, avec autant d'aisance de naturel de nonchalance que moi ma canne de jonc. C'est une grande, une merveilleuse affaire, Alec. Est-il bien pris, au moins? Peut-il nous faire faux bon? Tu le tiens? N'aie pas peur. Repose-toi sur moi pour cela. Il est attaché, il a les mains liées. Il est notre débiteur. Il est à nous, corps et âme. Mais occupons-nous, si tu veux, du second prétendant. Qui est-ce, Alec? Son Altesse Royale, Sigismond Siegfried, Lauenberg, Distrimfeld, Schwarzenberg, Brunswurst, grand-duc héritière de Kassel-Jammer. Oh non, tu veux plaisanter. Il s'agit de lui. Aussi vrai que je suis là devant toi, je t'en donne ma parole. Sally restait suffoquée de surprise. Il saisit les mains de sa femme et les pressa longtemps entre les siennes. Enfin, il reprit avec enthousiasme. « Oh, comme tout cela est merveilleux et étonnant !»« Voici maintenant que nous allons faire régner nos descendants sur la plus ancienne des 364 principautés allemandes et sur l'une des 3 ou 4 à qui Bismarck laissa une indépendance relative en fondant l'unité de l'Empire. » Je connais cette petite capitale. Ils ont un fort et une cavalerie armée permanente. De l'infanterie et de la cavalerie, 3 hommes et 1 cheval. Alec, oh, nous avons longtemps attendu, nous avons souvent été déçus et avons dû différer nos projets, mais maintenant, Dieu sait que je suis pleinement, parfaitement, absolument heureux. Heureux envers toi, ma chérie, qui a préparé ce beau triomphe. À quand la cérémonie? Dimanche prochain. Bien. Oh, nous allons donner à ce double mariage un éclat incomparable. Ce n'est que convenable, étant donné le prestige des fiancés. Maintenant, autant je peux savoir, il n'y a qu'une forme de mariage qui soit exclusivement royale, c'est la forme morganatique. Sera-ce un mariage morganatique? Que veut dire ce mot, Sally? Oh, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il s'emploie au sujet des unions des rois ou des princes. Alors, ce sera morganatique. Bien mieux, je l'exigerai. Il y aura un mariage morganatique au point. Au point du tout. Bravo, Alec! Voilà tout arrangé! S'écria Sally en se frottant les mains. « Ce sera la première cérémonie de ce genre en Amérique. Tout New York en sera malade. » Les deux époux retombèrent dans le silence, tout occupés, chacun à part eux, à parcourir l'Europe, en invitant les têtes couronnées et leurs familles aux merveilleuses fêtes qu'ils allaient donner pour les noces de leurs filles. Durant 3 jours, les Foster ne vécurent plus que dans les nuages. Il n'était plus que très vaguement conscient des choses et des gens qui les entouraient. Il voyait les objets confusément, comme au travers d'un voile. Leurs âmes étaient demeurées au pays des rêves et ne savaient plus revenir au monde des réalités. Ils n'entendaient pas toujours les paroles qu'on leur adressait, Et quand ils entendaient, très souvent, ils ne comprenaient pas. Alors ils répondaient très vaguement ou à côté. À son magasin, Sally vendit des étoffes au pois, du sucre au maître et donnait du savon quand on lui demandait des bougies. À la maison, Alec mettait son chat dans l'armoire et offrait du lait à une chaise. Tous ceux qui les approchaient étaient étonnés et s'en allaient en murmurant: « Qu'est-ce que les Foster peuvent donc avoir? » 3 jours, puis les événements se précipitèrent. Les choses avaient pris une tournure favorable et pendant 48 heures, l'imaginaire coup d'audace d'Alec parut tout près de réussir. Les valeurs montaient en bourse. Encore un point, encore un autre. Elles eurent 5 points de surplus. Elles en eurent 15, elles en eurent 20. Alec faisait plus que doubler ses innombrables millions. Elles dépassaient 4 milliards. Et les agents de change imaginaires lui téléphonaient sans trêve: « Vendez, vendez! Pour l'amour du ciel, vendez maintenant !» Elle apporta ces splendides nouvelles à son mari et lui aussi s'écria: Vends, mais vends vite maintenant! On ne te laisse pas affoler, n'attends plus! Vends, vends! Mais elle ne voulut rien entendre. Elle opposa à toutes les objurgations sa volonté et déclara qu'elle voulait encore 5 points de plus-value. Cette obstination lui fut fatale. Le lendemain même survint la fameuse débâcle, la débâcle unique, historique, la débâcle. Tout Wall Street fut ruiné. Des multimillionnaires mendièrent leur pain. Alec tint bravement tête à l'orage et tâcha de dominer la panique aussi longtemps que possible. Mais à la fin, elle fut impuissante à conjurer le désastre. Et ses agents imaginaires lui télégraphièrent qu'il ne lui restait rien. Alors, mais seulement alors, son énergie toute virile l'abandonna et elle redevint une faible femme. Elle passa les bras autour du cou de son mari et dit en pleurant: Je suis coupable, impardonnable, je ne puis le supporter. Nous sommes pauvres. Pauvre, et moi je suis si malheureuse. Les noces de nos filles ne se feront pas. Tout est fini. Nous ne saurions même plus acheter le dentiste maintenant. Sally avait sur les lèvres un amer reproche. Je t'avais prié de vendre, mais il se contint. Il ne se sentit pas le courage de dire des choses dures à sa pauvre femme brisée et repentante. Au contraire, une noble pensée lui vint et il dit: Courage, mon Alec, et tout n'est pas perdu. En réalité, tu n'as pas risqué un sou de l'héritage, mais tu as seulement beaucoup gagné et beaucoup perdu en opérations fictives. Courage, les 30 000 $ nous restent, ils sont intacts. Et ton incomparable jugement financier, aidé de l'expérience acquise, nous aura bientôt rendu aussi riches qu'auparavant. Et pense à ce que tu seras capable de faire dès maintenant. Les mariages ne sont pas impossibles, ils sont simplement remis. Ce furent paroles bénies. Alec en reconnut la vérité, elle releva la tête. Ses larmes cessèrent et elle sentit une nouvelle et noble ardeur envahir son âme. D'une voix presque joyeuse et sur un ton prophétique, elle s'écria: En tout cas, je proclame. Un coup frappé à la porte l'interrompit. C'était le propriétaire et directeur du Sagamore. Il avait dû venir voir un parent éloigné qui était près de sa fin. Et pour ne pas oublier ses intérêts malgré son chagrin, il était venu frapper à la porte des Foster, qui s'étaient trouvant absorbés en d'autres préoccupations, qu'ils avaient négligé de payer leur abonnement depuis 4 ans. Ils devaient 6 $. Nul visiteur ne pouvait être accueilli avec plus de joie. Il allait pouvoir dire tout ce qui concernait l'oncle Tilbury et l'état de sa santé. Naturellement, les Foster ne voulaient ni ne pouvaient lui poser à ce sujet aucune question directe, sous peine de manquer à leur engagement sacré. Mais ils pouvaient tâcher d'amener la conversation tout près du sujet brûlant et espérer d'obtenir quelques renseignements spontanés. Tout d'abord, cela n'amena aucun résultat. L'esprit obtus du journaliste ne se rendit compte de rien. Mais à la fin de la visite, le hasard fit ce que la ruse n'avait pas su provoquer. Pour illustrer une affirmation qui avait sans doute besoin de ce soin, le directeur du Sagamore s'écria: « Terre du ciel, c'est juste, comme disait Tilbury Foster. » Ce nom fit tressauter les Foster. Le journaliste s'en aperçut et dit en s'excusant: « Bon, je vous demande pardon. Oh, je ne mettais aucune mauvaise intention dans cette phrase, je vous assure. Un parent, peut-être? » Sally rassembla tout son courage. Et arrivant à se dominer par un grand effort, il répondit d'un ton indifférent: Un parent, bien non, pas que je sache, mais nous avons entendu parler de lui. Le directeur, heureux de n'avoir pas blessé un abonné, reprit contenance. Sally ajouta: Est-il, se porte-t-il bien? Bien, Dieu vous bénisse! Il est en enfer depuis 5 ans. Les Foster tressaillirent de douleur, mais il leur sembla que c'était de joie. Sally reprit: Ah bien, telle est la vie. Nous devons tous la quitter, les riches aussi bien que les autres. Le directeur se mit à rire. On n'y comprenait pas Tilbury, dit-il. Il est mort sans le sou. Il a été enterré aux frais de la commune. Les Foster demeurèrent pétrifiés pendant 2 minutes. Alors, la face toute blanche, Sally reprit d'une voix faible: Est-ce vrai? Êtes-vous sûr que ce soit vrai? Oh, certes, j'ai été obligé de m'occuper des formalités, parce que Tilbury, qui l'avait pour tout rien qu'une brouette, me l'avait légué. Et notez que cette brouette n'avait plus de roue. De plus, cela m'a obligé à écrire une sorte d'article nécrologique sur le défunt. Mais la composition de cet article fut détruite parce que les Foster n'écoutaient plus. Ils en avaient assez. Ils n'avaient plus besoin de renseignements. Ils ne pouvaient en supporter davantage. Ils restaient là, la tête penchée, morts à toute chose, sauf à leur souffrance aiguë. 1 heure après, ils étaient toujours à la même place, leur tête baissée, silencieux. Leur visiteur était parti depuis longtemps sans qu'ils y eussent prêté la moindre attention. De temps à autre, ils hochaient la tête à la façon des vieillards, d'une manière dolente et chagrine. Puis ils se mirent à bavarder d'une manière puérile et à prononcer des paroles sans suite. Par moments, ils retombaient dans leur silence profond. Ils semblaient avoir oublié tout le monde extérieur. Quelquefois, au moment où ils rompaient le silence, ils avaient une vague conscience d'avoir été frappés par une grande douleur, et alors ils se caressaient mutuellement les mains en signe de compassion réciproque. Et comme pour se dire l'un à l'autre: Je suis près de toi, je ne t'oublie pas, nous supporterons le malheur ensemble. Quelque part il doit y avoir le repos et l'oubli, quelque part nous trouverons la paix et le sommeil. Sois patient, ce ne sera plus bien long. Ils vécurent encore 2 ans, perdus dans la même nuit de la pensée, dans les mêmes rêves vagues et chagrins et presque toujours silencieux. Enfin, ils moururent tous deux le même jour. Quelques semaines avant cette heureuse délivrance, une lueur de conscience revint au cerveau ruiné de Sally et il dit: De grandes richesses acquises tout d'un coup et sans peine ne sont que du prix. Elles ne nous ont pas rendus meilleurs, mais nous ont donné la fièvre des plaisirs. Et pour elles, nous avons renoncé à notre simple, douce et heureuse existence. Eux, cela sert d'avertissement aux autres. Il s'arrêta et ferma les yeux. Alors, comme la douleur envahissait de nouveau son âme et qu'il retombait dans l'inconscience, il murmura « L'argent l'avait rendu misérable et il s'est vengé sur nous, qui ne lui avions rien fait. Voilà ce qu'il voulait. Il ne nous a laissé que 30 000 $ afin que nous serions tentés d'augmenter cet argent en spéculant. Et par là, il voulait ruiner nos âmes. Sans qu'il lui coûtât plus, il aurait pu nous laisser une bien plus grosse somme, de façon que nous n'aurions pas été tentés de l'augmenter. Mais s'il avait été moins méchant, c'est ce qu'il aurait fait. Bof, il n'y avait en lui aucune générosité, aucune pitié, aucune...